Vous êtes à l'écoute de l'émission Méditation biblique. Au micro, Jacques Marchal. Chers auditeurs, bonjour. Des auditeurs m'écrivent en me demandant pour quelle église je travaille. Ils désirent avoir des détails sur ce que nous sommes et sur ce que nous enseignons. C'est pourquoi il m'a paru utile d'essayer de développer ce sujet au cours d'une ou même plusieurs émissions radiophoniques. Celui qui parcourt les pages du Nouveau Testament n'est pas sans s'apercevoir que le christianisme qui est écrit et enseigné est sensiblement différent de ce que l'on voit aujourd'hui. Au premier siècle de notre ère, il n'était nullement question de somptueuses églises, de cérémonies dont le faste égale la richesse des ornements, ni même de toutes les sectes qui déchirent aujourd'hui le monde religieux. À quelle église appartenait donc l'apôtre Paul, ou encore Pierre, Jean et Jacques? Tout simplement à une institution divine dont le nom ne laissait aucun doute sur l'appartenance. C'était l'Église du Seigneur, ou tout simplement l'Église. Pour désigner l'ensemble des assemblées locales de cette Église, l'apôtre Paul utilise le terme « les Églises de Christ ». Faire partie de cette Église semble pour certains constituer un véritable problème, et ce, pour la raison suivante. Premièrement, la plupart des gens considèrent que l'Église, au sens propre du terme, a cessé d'exister après avoir donné naissance aux principales tendances religieuses existant dans le monde occidental qui, elles-mêmes, se sont subdivisées en sectes diverses et variées. Ces personnes perdent de vue tout d'abord le fait que, selon les Écritures, l'Église est incontestablement un royaume inébranlable, et ensuite que les paroles mêmes de Jésus proclament bien haut que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Deuxièmement, d'autres encore professent que l'ensemble de tous les groupements ou de toutes les tendances religieuses, parfois contradictoires, il faut bien le dire, constituent la prétendue Église invisible. Cette opinion est assez répandue et ses partisans prétendent qu'appartenir à l'un de ces groupements ou églises équivaut en fait à faire partie de l'Église des Écritures, celle que Jésus-Christ s'est acquise par son propre sang. Ceci ne peut être vrai. Tout d'abord en vertu précisément des différentes doctrines enseignées par ces innombrables sectes, et ensuite parce que l'entièreté de cette conception d'un secte diverse gravitant autour de l'Église, l'Église proprement dite, est vigoureusement réfuté par l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens. Écoutons-le. « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Le sectarisme est sans cesse condamné dans la Bible. Et il suffit d'entendre l'apôtre Pierre traiter les sectes de pernicieuses pour s'en convaincre. Paul, quant à lui, insiste très souvent sur le fait qu'il n'existe qu'un seul corps, dont seuls les chrétiens sont les membres. Il est très courant d'entendre dire qu'il existe une part de bonnes choses dans chaque Église. Ceux qui alignent leur vie spirituelle sur cette pensée devraient, il me semble, se poser la question suivante. S'il y a du bon dans toutes les Églises, qui donc en bénéficie, puisqu'il est impossible de faire partie de chacune d'entre elles? Voilà précisément où le bas blesse. C'est là que réside le nul problème. On ne peut trouver toute la vérité dans aucune église, parce que la véracité de la parole de Dieu a été découpée, déchirée en de multiples fragments, et que chaque secte a construit son mur de séparation sur un ou plusieurs de ces fragments de vérité. Autrement dit, autour de ces chapitres et de ces versets préférés. L'âme dévouée à la totalité de la volonté de Dieu prend très vite en horreur non pas ces lambeaux de vérité rencontrés ça et là, mais plutôt les murs de séparation qui n'ont absolument pas le droit d'exister et qui polluent profondément l'Évangile en le rendant pratiquement méconnaissable. Chacun est maintenant fatigué des doctrines contradictoires des multiples sectes se prétendant toutes seules détentrices de leur vérité. On en a assez de suivre de près ou de loin les papes, les réformateurs, les fondateurs de sectes. Nous vivons à une époque où nombreux sont ceux qui veulent chercher eux-mêmes la voie de leur propre salut et découvrir la vérité sans devoir passer par l'opinion tortueuse et souvent intéressée d'un autre homme ou groupe d'hommes. Il s'agit d'une sorte de mouvement spontané et il sera fort difficile de l'arrêter, heureusement. Cette vérité, une fois installée dans le cœur, le croyant sincère discerne enfin la confusion de doctrines et de règles religieuses qui régissent ceux de sa génération. Il désire alors lui-même partir à la découverte du christianisme tel que Dieu l'a voulu et créé. Rien ne peut plus alors le satisfaire pour étancher sa soif de vérité, si ce n'est l'eau pure, bien sûr, qui coule de la volonté de Dieu, exprimée dans la Bible. Ensuite, il obéit à son sauveur et est sauvé. Il est devenu un des membres du corps de Christ. Mais comment se nomme cette Église? Dites-moi, quel est son nom? Cette Église est-elle celle des Adventistes, du monde à venir, des Pentecôtistes, des témoins de Jéhovah, des Luthériens, des Calvinistes, des Mormons, de la science chrétienne, des protestants, des catholiques? N'est-elle pas plutôt celle dont parle la Bible et que seul Jésus a fondée sur son sacrifice et sa résurrection? Satan a usé et use encore de toute sa puissance et de tout son talent pour détruire cette Église originale. Ces attaques visent non seulement l'Église et la doctrine de cette institution divine, mais également son but, son objectif, en bref, sa raison d'être. Le monde religieux est tout prêt à accueillir dans son sein les Églises de Christ disséminées dans notre pays ainsi qu'à l'étranger et à les considérer comme une autre partie de lui-même. Cette charmante invitation à rejoindre la grande fraternité des sectes pourrait très vite entrer dans le domaine du possible, s'il n'existait un obstacle insurmontable, qui est la réalisation du fait qu'il existe une véritable Église de Dieu, révélée à l'homme dans la Bible, et envers qui l'humanité tout entière a un devoir surpassant tous les autres, la loyauté. C'est pourquoi nous faisons cavalier seul, sans nous laisser absorber par personne. Nous ne faisons partie d'aucune fédération d'Église et ne siégeons à aucun synode ou concile quelconque. Cette attitude n'a pas été sans susciter un certain ressentiment et une opposition parfois assez nette. Mais direz-vous quelles sont les raisons de cette animosité? Le cas de l'Église du Christ est dans une certaine mesure similaire à la situation de fait existante à l'époque où vivaient les premiers chrétiens. L'Empire romain possédait de nombreuses religions. Chaque empereur même était un dieu, et le peuple leur élevait des statues et des autels par centaines. Au début, Rome accueillit le christianisme comme étant tout simplement une religion parmi tant d'autres. Les Romains en avaient en effet de très nombreuses, et leur attitude vis-à-vis de cette nouvelle secte était assez amicale. Toutefois, tout changea lorsqu'on s'aperçut que la religion de Jésus était nettement supérieure à toutes celles qu'avait connues Rome auparavant. En effet, les droits acquis par le paganisme étaient tellement puissants que certains virent dans cette nouvelle Église le signal du déclin d'un système philosophique et religieux établi. Alors, on se mit à brandir les armes. Les instincts se déchaînèrent très vite contre la foi nouvelle et sincère de ces chrétiens doux et pacifiques. Ce ne fut que grâce à la providence et à la miséricorde de Dieu que l'Église de son Fils, après avoir subi l'épreuve du feu, vainquit pacifiquement la Rome païenne. De nos jours, l'opposition des méchants contre la vraie Église de Dieu gronde toujours. Tout va bien pour une Église aussi longtemps qu'elle se contente de faire silencieusement partie de la masse de ceux qui prétendent former le christianisme. Mais dès l'instant où quelqu'un entrevoit la gloire spirituelle et pure que revêtait l'Église primitive, et qu'il commence à prêcher cette vérité-là à ses semblables, chacun se lève pour le menacer de ses foudres. Pourquoi tout ceci? Tout simplement parce que Satan ne désire nullement voir cet état de division prendre fin. Comme le disait Louis XIV, il faut diviser pour mieux régner. C'est le prince des ténèbres qui a corrompu le monde religieux. Ne l'oublions pas. Notre loyauté vis-à-vis de la volonté de Dieu nous interdit de faire partie d'autre chose que de cette Église du Seigneur décrite en long et en large dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi nous ne possédons aucune caractéristique propre à une secte ou à une dénomination, c'est-à-dire aucun fondateur humain, règle de foi ou dirigeants humains, doctrine spécifique à ce fondateur ou à ses responsables. Cette position, bien connue de la plupart des dirigeants religieux, leur paraît d'autant plus intolérable qu'ils sont eux-mêmes virtuellement prisonniers d'un système établi, d'une structure doctrinale rigide, ne permettant aucun changement notable. Ils se trouvent pris au même piège qu'Anne et Caïphe, devant qui Jésus fut envoyé, et qui ne pouvaient virtuellement faire autrement que de rejeter sa messianité. Pensez donc, ils étaient souverains sacrificateurs de la nation juive. Admettre que Jésus était bien le Fils de Dieu eût été voir s'écrouler la structure religieuse, légale et même doctrinale d'un système mis en place depuis des siècles et dont ils étaient à la fois les responsables et les bénéficiaires. L'immense majorité des gens n'éprouvent a priori aucune difficulté à accepter la vérité auquel se trouvent. Ils l'accepteraient de grand cœur s'ils pouvaient la voir. Et c'est précisément la raison pour laquelle on fait en sorte qu'ils ne puissent y parvenir. Les sectes, les dénominations, ne peuvent rester passives devant une tentative de retour effectif à la vérité première, à la foi pure, simple, universelle de Jésus-Christ. Trop de choses s'écrouleraient, trop de trônes tomberaient, trop de dirigeants, de chefs, de directeurs perdraient leur situation privilégiée. Une émission de méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement, je vous le promets. Je puis également vous envoyer le texte intégral de cette causerie. Gratuitement s'entend car nous n'avons absolument rien à vendre. Mais qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autre nom et ne sont rattachés ni à une organisation centrale ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout de pratique est le Nouveau Testament. Notre unique chef est Jésus-Christ. Seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle n'enseigne pas. Écrivez à Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130 Palma. Je répète, Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130 Balma. Au revoir, que le Seigneur vous garde et à lundi prochain, même heure.
Le Seigneur même, nous parle de son frère, le Seigneur même, il est amour. Je vous dirai toujours le Seigneur.